Salut, c'est la Poulie.
Bonjour tout le monde.
Sur Radio Primitive, revue de presse hebdomadaire. Alors, de quoi qu'on parle cette semaine ?
De quoi qu'on parle ? Ben, on va parler du, on va revenir un peu sur le procès du, ce qu'on appelle l'affaire du 8-12. Encore une fable antiterroriste. On va revenir un peu là-dessus.
Ok, moi je vais vous parler un peu des marches contre l'antisémitisme qui ont eu lieu hier.
Et moi, je vous parlerai de la dissolution du groupe antifasciste lyonnais, la GAL.
Ok, et si on a le temps, on parlera peut-être un peu de construction de nouvelles prisons dans le sud, à Entraigues, sur la Sorgue, voilà. Et puis on commence par un agenda.
C'est parti.
Allô ?
Qu'est-ce cela ?
C'est le calendrier des télécoms.
Eh ben, qu'est-ce qu'il y a dans l'ordre ?
Eh ben, je crois que c'est moi dans l'ordre qui commence. C'est le 15 novembre, c'est-à-dire mercredi, assemblée antifasciste à Nancy, à la Fac de Lettres, salle A123, voilà, à 18h30. Il y a besoin de se réunir pour discuter de ce genre de choses en ce moment, voilà.
Ensuite, vendredi le 17 à Reims, ce coup-ci, à l'espace Le Flambeau. Il y a une pièce de théâtre, c'est le premier événement qui est organisé par le collectif de la Luciole, futur...
Café-librairie.
Café-librairie à Reims, ouais. Et donc là, ils squattent le flambeau une soirée. Donc c'est le jeudi 17, excusez-moi, c'est pas vendredi, c'est jeudi 17 novembre. Une pièce de théâtre sur le massacre des Algériens à Paris le 17 octobre 61. Donc c'est l'ouverture à 19h. Et il me semble que c'est prix libre. Et la représentation à 20h. Et j'ai entre les mains le programme de chez Josette à Charleville. Donc il y aura... On va peut-être pas tout vous citer, je vous encourage à aller voir le programme de chez Josette, ils ont un Facebook. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a le 25 novembre par exemple ? Je vais pas tout vous citer, mais les diffusions du film L'Explosion... c'est sur la lutte contre une centrale nucléaire dans les années fin 70, ouais. Début 80, dans les Ardennes à Chaux. Et ça sera suivi d'un petit concert, voilà, et plein d'autres trucs dans ce beau lieu chez Josette. Allez voir.
Ok. On se met un peu de musique peut-être ?
Allez.
1, 2, 3, 4. Now I wanna see something. Now I wanna stand to me. All that kids wanna see something. All that kids wanna stand to me. 1, 2, 3, 4.
Ça y est, de retour dans la Poulie, et on s'écoutait I Wanna Sniff Some Glue, des Ramones.
Et moi, je vais vous lire le dernier communiqué du groupe antifasciste lyonnais, la GAL, suite à sa dissolution fin de semaine dernière. Voilà. C'était important de le faire entendre une dernière fois, je pense. Après une première victoire, en recours face à la demande de dissolution de notre groupe, le ministère de l'Intérieur a persévéré dans son acharnement contre celles et ceux qui luttent contre la fascisation de notre société. Dans sa chasse aux ennemis intérieurs, l'État a déjà dissous des associations luttant contre l'islamophobie ou défendant la cause palestinienne, notamment grâce à la loi séparatisme. C'est maintenant au tour d'un groupe probablement représentatif pour eux du mouvement autonome d'être attaqué. Ils se méprennent. Ce n'est pas parce qu'ils dissolvent nos structures que nous cesserons de lutter. Les mouvements de contestation continueront de fleurir partout sans arrêt. Ce contexte de répression étatique est un poncif de la fascisation de l'État comme le passé a pu en connaître. Et si la forme a évolué, le fond persiste. Que ce soit face à l'État ou sa police, le capital ou les milices fascistes, nous ne cesserons pas de nous organiser et de faire front. Nous voulions rappeler ici la chronologie des événements. Le 17 mars 2022, une notification de dissolution était remise à des membres supposés de la GAL, suite à 2 jours de véritable harcèlement policier. Le 1er avril 2022, la notification définitive de dissolution était adressée à un membre supposé du groupe. Elle aura notamment eu pour conséquence la restriction des libertés individuelles des membres, dont l'interdiction d'apparaître dans des manifestations ou des événements politiques et l'interdiction totale d'utiliser les réseaux sociaux du groupe ou tout matériel militant. Face à cet acharnement forcené du ministère de l'Intérieur, nous avions alors décidé de commencer un bras de fer judiciaire. D'abord, avec l'aide de nos avocats et avocates, nous avons déposé un référé liberté au Conseil d'État, accompagné d'un dossier visant à démontrer pas à pas l'argumentaire à démonter pas à pas l'argumentaire complètement lunaire, approximatif et bâclé utilisé par le ministère pour nous incriminer. L'audience au Conseil a eu lieu le 11 mai 2022 et 2 heures de débat s'engagent pour tenter de nous défendre. Le 16 mai, la décision tombe. Le Conseil d'État décide de suspendre la décision du Conseil des ministres de dissoudre notre groupe, stipulant qu'il s'agissait d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de réunion et d'association. C'était une victoire pour nous, mais aussi plus largement pour notre camp politique, après la suspension de dissolution des groupes Palestine Vaincra et Comité Action Palestine. Nous savions bien sûr que nous n'avions là gagné qu'une bataille, que cette décision n'avait rien de définitif, puisqu'elle ne faisait que suspendre la dissolution du groupe antifasciste Lyon et environ, jusqu'au débat final qui a eu lieu le 27 octobre 2023. Le 19 octobre dernier, nos avocats et avocates ont été informés que l'audience sur le fond du recours contre notre dissolution, ainsi que celle du soulèvement de la terre et du CRI, aurait lieu une semaine après. Nous n'avons donc eu qu'une semaine pour se préparer à une audience censée protéger nos libertés fondamentales. Le jour J, avant que notre avocat au Conseil ne puisse prendre la parole, le rapporteur public, anciennement nommé commissaire du gouvernement, qui portait aussi bien alors son nom, demandait au juge du Conseil d'État de bien vouloir maintenir notre dissolution, quand bien même elle aurait été jugée illégale précédemment. L'audience aura été rapide, en 2h30 pour discuter de 4 groupes différents. Aujourd'hui, le Conseil d'État décide de revenir sur les précédentes décisions et choisit de dissoudre la GAL, ainsi que le CRI. Les soulèvements de la terre font quant à eux l'objet d'un avertissement sans frais, une promesse d'avenir pour le ministère de l'Intérieur et d'Armanin. Nous en concluons que nous n'avons pas d'autre choix que de nous référer aux juges européens pour rappeler au Conseil d'État ce qu'est une liberté fondamentale. Aujourd'hui, le Conseil d'État a même oublié d'en parler, alors même qu'il y a 18 mois, il suspendait la dissolution au nom des libertés d'association et de réunion, et d'expression et d'opinion. Mais nous sommes tous et toutes des militants de terrain et nous ne cesserons pas le combat face à un gouvernement se complaisant dans les dérives liberticides et autoritaires. Dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement, où le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie augmentent partout, où les acquis sociaux sont méticuleusement démontés, où la police se retrouve légitimée dans ses exactions et ses crimes racistes, où se perpétue la traque inhumaine des migrants et migrantes aux frontières de l'Europe, Alors, il est même un devoir de continuer la lutte, et ce n'est certainement pas un décret qui nous arrêtera. De plus, si notre minuscule mouvement antifasciste autonome local se retrouve visé par le ministre de l'Intérieur, c'est que nous avons jusque-là visé plutôt juste. Notre combat contre l'autoritarisme, le capitalisme mortifère, l'extrême droite, ses idées, ses états et ses bandes armées va se poursuivre. Peut-être ne fait-il d'ailleurs que commencer. Ceci est un appel à un soutien d'ampleur de la part de tous nos alliés et des forces progressistes dans leur ensemble. Face au basculement répressif, faire bloc est notre seule issue. On ne dissout pas une révolte qui gronde, comme on ne dissout pas un soulèvement. À jamais antifasciste. Donc voilà, si ça c'était le dernier communiqué de la GAL, et je crois que tu voulais enchaîner avec les d'autres dérives antisémites.
Oui, même néo-nazis. Hein, pendant cette marche contre l'antisémitisme qui a eu lieu hier, donc dimanche. À Nice, par exemple, alors ça, c'est un article de Contre-Attaque, le titre, « Un nazi à la marche contre l'antisémitisme ». À Nice, contre l'antisémitisme, on trouvait sur le même podium Christian Estrosi, maire de Nice, issu de la droite sarkozyste et très répressif et aujourd'hui proche de Macron. Philippe Vardon, leader identitaire, conseiller municipal Reconquête, est connu pour ses anciens, point d'interrogation, engagements nazis. Le Niçois Philippe Vardon a milité dans le groupuscule Unité Radicale, un des mouvements les plus extrêmes de la nébuleuse fasciste française. Unité Radicale a été dissoute après avoir tenté d'assassiner le président Jacques Chirac le 14 juillet 2002. Vardon fait lui-même un séjour en prison pour des violences. Il fonde ensuite l'Union Défense des étudiants nationalistes et se revendique des idées du nazi belge Léon de Grelle, avant de lancer le mouvement Génération Identitaire. Vardon était chanteur au sein d'un groupe de musique nazie baptisé Fraction. En 1998, il est filmé dans un documentaire d'Arte, dans un concert, sur une scène où ses camarades font des saluts hitlériens. Lui chante « Nous sommes la Zyklon Army », le Zyklon B étant le produit chimique utilisé par les nazis pour exterminer les juifs pendant la Shoah. Il est aussi proche d'Hervé Rissin, figure de proue du négationnisme. Ainsi, Vardon est au cœur des groupes les plus radicalement antisémites en France. Il a même été poussé hors du Front National pour sa virulence. Aujourd'hui, il mène une carrière politique à Nice sous l'étiquette Reconquête et travaille avec le reste de la droite locale. Il se retrouve donc sur le podium lors d'un rassemblement prétendument contre la haine. Voilà la communion organisée au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Des nazis sont au premier rang pendant que la cause palestinienne est diffamée. Une opération de renversement, les héritiers de Pétain ont capturé les termes république, laïcité ou lutte contre l'antisémitisme et les utilisent pour neutraliser toute opposition. Tout est perverti. Et oui. Et donc, Nice, c'est pas le seul endroit où des fascistes, néo-nazis, etc. étaient dans les manifestations. Et évidemment, à Paris, puisqu'il y avait Marine Le Pen, Éric Zemmour, etc. Des groupes, d'ailleurs, il y a un groupe, le groupe Golem, qui est un groupe de personnes juives, enfin fondé au moins par des personnes juives, qui avait décidé de venir pour chasser l'extrême droite, finalement, pour les faire sortir de cette manifestation où, a priori, ils n'avaient rien à faire. Et bon, ils ont été arrêtés par la police, enfin pas arrêtés, mais repoussés. Et la police leur a pris leur pancarte qui dénonçait l'antisémitisme de Zemmour et de Le Pen, etc. Et puis il paraît que aussi à Reims les néo-nazis étaient sortis dans la manifestation, pardon.
Néo-nazis et fascistes, pareil, Front National et groupes. Okay. Plus clandestin.
Voilà, donc on voit qu'aujourd'hui, tout est, effectivement, comme le disait le texte de Contre-Attaque, tout est perverti. Donc voilà, de bien triste temps que nous vivons là. Alors, on s'écoutait Moral Panic, Anti, Anti, Anti.
Et moi, maintenant, je vais vous parler du... je vais vous lire un article du numéro de novembre de CQFD qui revient sur encore une fable antiterroriste à la sauce Tarnac un petit peu. Voilà, donc on vous en avait déjà parlé, le procès s'est tenu pendant 3 ou 4 semaines au mois d'octobre et il y aura un verdict le 22 décembre. Pour l'instant, tous ces gens-là sont encore dans le flou. Les fantasmes du parquet, ça s'appelle. Le procès des inculpés du 8 décembre 2020 s'est tenu en octobre devant le tribunal correctionnel de Paris. Retour partiel sur un dossier aussi bancal que dangereux pour le futur des libertés publiques. Vous n'êtes pas jugé pour vos opinions politiques, rappelle la présidente. Une partie de la salle 213 du tribunal correctionnel de Paris se marre. Et pour cause. Durant ce mois d'octobre, où les inculpés du 8 décembre 2020 se sont vus jugés pour association de malfaiteurs terroristes, c'est bien à un procès politique qu'on a cru assister. Des parties d'airsoft interprétées comme des entraînements paramilitaires, à la confection de pétards artisanaux considérés comme de la fabrique d'explosifs, le spectacle aurait pu relever du comique si les inculpés ne risquaient pas toutes 10 ans de prison ferme. Tout au long du procès, les substituts du procureur se sont obstinés à vouloir démontrer la dangerosité des ultra-gauchistes, tout penauds, qui se sont succédés à la barre. Pour cela, ils ont pu compter sur les 11 947 séquences audio captées par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, grâce à un micro planqué dans le camion de Florian, ancien internationaliste engagé au Rojava et surveillé depuis son retour en 2018. Reste que selon les calculs de maître Raphaël Kempf, un des avocats de la défense, seuls 0,72% des séquences enregistrées ont été versées au dossier par les enquêteurs. Au menu, des bribes de conversation, souvent à l'heure de l'apéro, où l'on entend parler politique, révolution, flics et projets d'autonomie. Vous mettez deux gauchistes et de l'alcool dans un camion, et ça donne ça, résume un prévenu. Entre le peu de goût du parquet pour le second degré et les conversations tronquées, on réalise à quel point ces preuves peuvent s'avérer trompeuses. Et quand les 13 avocats de la défense cherchent à comprendre comment les agents ont pu confondre des coups de marteau avec des rafales de tir, le tribunal refuse par 3 fois de faire venir à la barre des anonymes de la DGSI. Pas d'explication non plus sur la disparition d'une des rares vidéos à décharge dans ce dossier, où l'on apercevrait deux potes se retrouver le temps d'un week-end pour descendre des canettes plus que pour manier des bombes. Manque de bol, elle n'a pas été retranscrite et il n'en reste rien. Appelé à la barre pour évoquer un autre projet, Camille s'agace d'entendre les juges parler d'entraînement paramilitaire et mélanger armes réelles et pistolets à billes, comme pour donner des airs de réel au fantasme du parquet. À l'évocation des méthodes de la DGSI lors des arrestations, les larmes montent à la barre. On faisait des pauses techniques pendant les interrogatoires, raconte William. Au cours de l'un d'eux, les flics coupent la caméra et lui font comprendre que Florian a été pris le doigt sur la gâchette, qu'il s'apprêtait à faire une grosse connerie. On lui conseille de charger un peu son ami pour ne pas moisir en tôle les prochaines années. William finit par qualifier Florian de leader charismatique pour aller dans le sens des enquêteurs. On m'aurait demandé s'il avait assassiné François Ferdinand, j'aurais dit oui. Alors démontrait une vague intention, saupoudrait d'autres éléments à charge. L'un porte un tatouage à cab, d'autres étaient à la ZAD de Sivins quand Rémi Fraisse a été tué. Possède des brochures d'info-kiosque, vivent dans un camion, utilisent des messageries sécurisées et partagent des idéaux libertaires. Sommés de détailler leurs convictions, les prévenus sont réduits à des anarchistes assoiffés de sang. Quand vous parlez de lutte contre les intolérances, vous parlez de lutte contre les forces de l'ordre, questionne une juge. Pour Florian, décrit par le parquet comme une légende dans le milieu, c'est son engagement au Rojava contre Daesh qui est retenu à charge. Après les attentats de Charlie, les écoles de police se sont remplies, aboie le procureur. Mais vous avez choisi de donner la mort. Il en remet une couche plus tard quand Florian évoque la Confédération démocratique. Votre référence, c'est Ocalan, le fondateur du PKK terroriste. Maître Colin Bouillon rappelle que malgré les apparences, ce n'est pas le parquet turc qui les poursuit. La tension monte encore d'un cran quand l'expert en explosifs missionné par le juge d'instruction expose ses alarmantes conclusions si des explosifs avaient été confectionnés à partir de produits perquisitionnés et si ces derniers avaient été dans des proportions plus importantes. Des « si » aux conséquences catastrophiques, comme le montre sa carte de l'hypothétique explosion d'un lieu soi-disant pris au hasard, la place Vendôme, adresse du ministère de la Justice. Le 27 octobre, les prévenus devaient savoir s'ils retournaient en prison. Florian était celui qui risquait le plus gros. Le procureur réclame 6 ans de ferme avec un mandat de dépôt à effet différé. Après 15 mois et l'isolement, sa détention provisoire s'était soldée par une grève de la faim. Quant à Camille, elle est parvenue à faire reconnaître l'illégalité de 26 fouilles à nu en 4 mois et demi d'incarcération. Verdict le 22 décembre. Donc ça, c'est un article qui a été écrit par Paul Rico dans le dernier CQFD. Donc on vous tiendra au courant le mois prochain du verdict. Et là, on était dans la ligne droite du « plus rien n'a de sens tout veut dire n'importe quoi ». Voilà, encore une fois, dans leur bouche.
Alors, je continue tout de suite avec, toujours dans la même veine, hein, tiens, d'ailleurs, on peut se mettre un petit ça, parce qu'on l'a pas... Voilà, un petit jingle. Du coup, là, moi, je reprends sur une nouvelle prison, qui a un projet de construction de prison à Entraigues-sur-la-Sorgue. Un article de valetsenlutte.org, c'est un site du réseau Mutu. La lutte contre la nouvelle prison à Entraigues continue. Alors que l'État met en route la construction de 15 000 places de prison supplémentaires, nous continuons d'affirmer qu'il faut se débarrasser de toutes les tôles, outils dangereux de soumission et d'apprentissage de l'humiliation. À Entraigues-sur-la-Sorgue, comme dans des dizaines de villes en France, l'État a décidé de construire un nouvel établissement pénitentiaire, ici 400 places, pour un total de 15 000 places de prison supplémentaires. Nous l'avons déjà dit lors des consultations publiques ou de manifestations, la prison, nous n'en voulons pas ni ici ni ailleurs. Pour réfléchir ensemble à nos moyens d'action et à notre dynamique pour la vie, tant la vie des écosystèmes, une vingtaine d'hectares de terres agricoles sacrifiées, que celle des humains, ceux qui vont être enfermés dans la tôle et celles et ceux qui vont la subir de dehors, nous vous donnons rendez-vous le 27 novembre à midi sur place, à la ZAC du Plan. Et donc, il y a une petite adresse mail, ni béton ni maton, @riseup.net. Donc, c'est le collectif ni béton ni maton qui organise cette lutte autour de cette prison, future nouvelle prison à Entraigues. Voilà. Et puis, je crois qu'on va devoir se quitter.
Avec un peu de musique. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.
Allez, à la semaine prochaine.
Salut.